c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et c'est l'heure de jouer aujourd'hui sur Millennium. On va parler de la gamme Loki, les mini-games de la gamme Loki. Et qui de mieux que Anne-Gaëlle pour présenter cette gamme?
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine et pour vous emmener découvrir une gamme de petits jeux édités par notre toutou préféré Loki. Donc cette gamme c'est les mini de chez Loki et dont il y avait déjà eu deux jeux, un premier était sorti en 2018 qui s'appelait Farmini, un jeu de Wilfried et Marie Fort, et un deuxième en 2019 qui s'appelait Little Battle, d'ailleurs qui s'appelle toujours puisque vous pouvez toujours trouver ces jeux en boutique. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de cette gamme, puisqu'elle s'agrandit en force avec l'arrivée non pas de 1 ni 2 mais de 3 boîtes de jeux et dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, quelle est selon moi la force de cette gamme? Il y en a plusieurs. La première, c'est que c'est une gamme pocket. Les boîtes, vous pouvez les emmener partout dans un sac, et vu que c'est des jeux à base de cartes, vous pouvez même juste prendre les cartes enroulées d'un petit élastique. Bon, si vous êtes tatasse comme moi, par contre, gardez les boîtes, de toute façon elles sont toutes petites, vous pouvez les glisser dans votre sac sans problème. Et la deuxième force, c'est que c'est des jeux qui s'installent rapidement, qui se jouent aussi rapidement, tout en offrant une belle profondeur de jeu, donc ce qui est vraiment intéressant en famille. Et la dernière, pas des moindres, c'est aussi mini par le prix, puisque les jeux sont accessibles en boutique aux alentours de 10€. Donc vous l'aurez compris, hein, tout est réuni pour plaire aux familles, accessibilité, prix, temps de jeu et réflexion. Allez, hop, je vous emmène maintenant découvrir le premier jeu qui s'appelle Tentacolor, un jeu de David Panizza, illustré par Cécile Lebrun. Et donc dans cette boîte, vous plongez 2 à 4 joueurs de plus de 4 ans dans un univers marin pour des parties d'environ 15 minutes. Donc c'est un jeu d'observation et d'anticipation dans un univers très coloré. L'objectif va être d'être le premier joueur à compléter son tentacule avec 5 cartes ayant une couleur commune. Donc comment va se passer un tour de jeu? Le premier joueur a 2 cartes dans les mains, les autres une, vous comprendrez pourquoi juste après. Et il commence par piocher une nouvelle carte. Il a donc 3 cartes dans les mains. Parmi ces 3 cartes, il y en a une qu'il va poser sur son tentacule pour le faire grandir. Au fur et à mesure de la partie, il faudra poser des cartes avec une couleur commune, puisque je vous le rappelle, c'est l'objectif du jeu pour pouvoir gagner. Poser 5 cartes qui se suivent ayant une couleur en commun, la même. Attention, je précise bien, la même. Hein. Et donc si à un moment donné on doit jouer mais qu'on n'a pas de carte avec la couleur que l'on avait choisie précédemment, le décompte recommence à 0, donc il faut à nouveau cumuler les cartes avec une couleur commune. Donc on a joué cette carte sur son tentacule, il nous reste 2 cartes en main, on va devoir en donner une à son voisin de gauche. Et oui, un premier jeu de draft et il faudra veiller à ne pas l'avantager. Si le joueur à côté a besoin de vert, je vais faire attention de ne pas lui donner une carte avec du vert. Et la dernière carte, je la garde dans les mains pour la jouer après. Mais, tout va peut-être pas se passer comme j'ai prévu, puisqu'il s'ajoute à ça une subtilité, le fait que certaines cartes ont des animaux marins dessus. Alors, on va retrouver le requin qui, lui, va retirer la carte d'un tentacule d'un adversaire. Donc là, on peut bien nous embêter à retirer une de nos cartes à nous, hein. On a aussi le banc de poisson qui, lui, va faire défausser la carte qu'un adversaire a en main. Donc si je l'avais gardée pour la jouer juste après, mais qu'on me la défausse, me voilà encore bien embêté. Et ensuite, on retrouvera aussi le spécimen rare qui, lui, va nous offrir un petit bonus de pause et qui, donc, va pimenter la partie. Donc, les animaux marins, au tout départ, vous pouvez ne pas les jouer. Nous, on les a pas joués à la maison, on les a ajoutés sur les parties d'après pour pimenter. Mais elles peuvent s'ajouter très très rapidement puisque les enfants vont vite comprendre le système du jeu. Donc c'est un jeu qui peut paraître très simple puisqu'on peut se dire que c'est juste de l'association de couleurs, on aligne 5 cartes avec une couleur en commun, mais en réalité ça va beaucoup plus loin puisqu'on initie les enfants à une mécanique de draft, donc le fait de passer les cartes aux autres, mais aussi sur les stratégies avec les pouvoirs des animaux marins qui sont présents sur les cartes. Donc pas facile à maîtriser au début, mais une belle courbe d'apprentissage et de compréhension au fil des parties, et ça c'est vraiment très très chouette. Je vous emmène maintenant en Égypte avec Happy's Family, hein, mon petit préféré de ces 3 nouveautés. Un jeu de Olivier Sipierre, illustré par Anthony Moulin. Pour 2 à 4 pharaons de plus de 5 ans, il est parti d'environ 15 minutes. Donc dans ce jeu, vous allez explorer une pyramide de cartes. Et vous allez tenter d'être le premier à collectionner le plus de divinités de la même famille. C'est un jeu d'observation et de collection où il va falloir se souvenir des divinités qui sont attendues et aussi d'y accéder. Alors vous imaginez une pyramide de cartes où il y a une alternance de chaque niveau hein, entre face visible et face cachée. Donc prenez ça un peu comme une initiation à Seven Wonders Duel si vous connaissez. Et votre objectif va être de réunir des séries de 3 divinités. Donc le nombre de séries dépend du nombre de joueurs autour de la table. Ou bien de réunir 2 séries de 3 divinités de la même famille, soit 6 divinités. Donc à votre tour, vous prenez une carte accessible de la pyramide, face cachée ou face visible. Si elle est face cachée, vous ne la montrez pas aux autres. Si elle est face visible, les autres devront être attentifs à ce que vous prenez. Donc vous la prenez dans vos mains, puis vous avez la possibilité de demander aux autres joueurs, comme au jeu de cette famille, une carte. Par exemple, je pourrais dire, Luna, dans la famille Anubis ou Chacal, hein, as-tu le numéro 2 ? Et c'est précisément dans cette partie du jeu que c'est exceptionnel, puisque l'enfant ou l'adulte d'ailleurs hein, va devoir se souvenir de ce que les autres ont pris comme carte dans la pyramide, mais aussi être vigilant aux cartes restantes dans cette pyramide pour demander celles qu'ils veulent. Ben oui, si le chacal numéro 2 est tout en haut de la pyramide, personne ne peut l'avoir dans ses mains, donc ça sert à rien que je demande celle-ci. Avant de passer au tour du joueur suivant, il va falloir vérifier dans ma main si j'ai 3 cartes de la même famille. Si c'est le cas, je les pose devant moi et je me rapproche un peu plus de la victoire. Je vous emmène maintenant dans la basse-cour avec le dernier jeu de cette petite gamme qui va être Farm Furious, un jeu de Luc Raymond illustré par Alfonso Pardo Martinez. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 coureurs de plus de 7 ans et des courses d'environ 10 minutes. Donc dans ce jeu, rien ne sert de courir, il faut partir à point. La basse-cour est de sortie pour vous aider à remporter la partie. Vous allez jouer vos cartes animaux au bon moment et allez faire attention aux autres concurrents qui auront assurément des répercussions sur la course. Le but du jeu va être d'être le premier à passer la ligne d'arrivée. Et comment on va faire? Les tours de jeu s'effectuent en simultané. Chaque joueur sélectionne une carte de sa main, puis quand tout le monde est prêt, avec sa carte, chacun va activer l'effet de celle-ci. Et les tours vont s'enchaîner de cette façon, en sachant que les cartes jouées précédemment restent visibles sur la table jusqu'à un certain moment. Donc vous l'aurez compris, hein, l'essentiel du jeu va être dans le pouvoir des animaux. Donc je vais vous les expliquer maintenant. On a la carte du caneton qui nous fait avancer donc notre pion d'une case pour chaque caneton joué durant ce tour. Donc on va essayer de pour que les autres jouent un caneton au moment où on sort le nôtre. La poule, elle, va faire avancer votre pion de 3 cases si aucun chien n'a été joué par les autres joueurs. Le lapin, lui, va vous faire avancer votre pion de 4 cases, mais attention, il ne faudra pas que le chien soit dans le tour, qu'il n'ait pas été joué et qu'il n'y ait pas d'autres lapins, sinon ça s'annule et vous n'avancez pas. Le chien, lui, il annule l'effet des poules et des lapins. Et il fait avancer votre pion d'autant de cases que de cartes que vous avez réussi à annuler pendant le tour. Le sifflet, lui, vous permettra de reprendre les cartes qui ont été jouées précédemment et qui sont face visible devant vous. Donc vous renouvelez votre main et vous pouvez rejouer les animaux déjà joués précédemment. S'ajoute à ça, si vous voulez, le coq qui, lui, va copier le pouvoir de la dernière carte jouée. Vous l'aurez compris, c'est un jeu palpitant qui entraîne enfants et adultes dans une course endiablée. On y a même joué entre adultes, pour vous dire. Alors, je vous le dis, mais à l'apéro, on a trouvé ça vraiment très funky et tout ça s'enchaîne très rapidement. On peut également souligner le fait que les cartes ont des pictogrammes hein, pour se souvenir des pouvoirs des animaux, ce qui est une très belle entrée en matière pour les enfants. Donc un jeu vraiment fun, rapide et frénétique. Voilà pour ces 3 boîtes. Alors sachez que quand même, hein, je ne vous en ai pas parlé, mais chacune de ces boîtes a des variantes qui sont intégrées et qui vont offrir encore plus de rejouabilité. Et donc ça va être des variantes de mise en place, des variantes de pouvoir ou autre. Vous allez voir, c'est très très sympa. Et au moins, on peut renouveler notre jeu une fois que les enfants ont déjà fait pas mal de parties et ont envie d'un peu de nouveauté. Donc c'est 3 boîtes, 3 univers, mais surtout 3 super jeux que je vous recommande les yeux fermés à voir hein, selon le profil de joueur que vous avez à la maison. Mais en tout cas, vous ne risquez pas d'être déçus. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine. Jouez en famille, profitez bien, c'est les meilleurs moments.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Merci Angèle, on te retrouve très bientôt sur Millennium.
De la semaine.
Et on continue la spéciale Loki aujourd'hui avec Marion, responsable de marque. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu.
Alors est-ce que tu peux nous présenter et nous en dire un petit peu plus sur Loki? À quel moment il a été décidé de faire une filiale enfant chez Yellow?
Alors ça remonte un petit peu. Les prémices remontent à 2016, ouais. Où c'était plutôt dans l'idée de se dire... il y a des jeux enfants qui existent déjà sur le marché, qui sont trustés aussi par d'autres grandes maisons d'édition. Et l'idée était de se dire, on pourrait faire un entre-deux qui soit à la fois des jeux sur lesquels on s'amuse bien, qui se prennent pas au sérieux, mais qui propose une exigence assez forte en souci du détail sur les mécaniques de jeu, où autant les enfants que les parents pourront s'éclater dessus avec une dimension un peu plus immersive et moins cérébrale et pédagogique. Et du coup, entre ce moment-là où on s'est dit bah ce serait bien qu'il y ait ce type de jeu enfant et autant les faire, et le moment où les premiers jeux Loki ont émergé sur le marché, bah, on était en 2018.
En 2018. Et le nom Loki, alors il vient d'où?
Il vient d'une longue recherche sur lesquelles on voulait un nom qui puisse marcher sur le marché français et à l'international, donc ouais. C'est compréhensible partout. Il y a eu pas mal d'échanges puisque on a une boîte Lorraine, donc il y avait aussi toute cette partie-là où on voulait dire qu'on était une maison d'édition ou de recherche, en tout cas éditoriale, qui est basée dans l'est de la France. Mais du coup, c'était compliqué. Et finalement, ça s'est arrêté sur Loki parce que on voulait une mascotte qui corresponde à cette gamme enfant et que on est parti sur un chien. Et que dans l'entreprise, il y a un chien qui s'appelle Loki, et du coup, qui a fait émerger cette idée d'un chien malicieux et aventurier, et qui correspondait bien en fait à l'esprit de la gamme qu'on est en train de construire.
À quoi ressemble le quotidien chez Loki? Je crois que vous faites tester les jeux aux enfants. Hein.
Ah oui, du coup, je ne sais pas si c'est exactement notre quotidien, mais en tout cas, ça fait partie de notre démarche éditoriale. Donc je sais pas si je vais exactement répondre à ta question, mais du coup à chaque fois on reçoit des concepts de jeu, on les teste déjà en interne. À partir du moment où on est tous d'accord sur le fait qu'il faut absolument qu'on avance dessus et qu'on le teste avec notre cible qui se trouve être les enfants. Donc historiquement de 4 à 7 ans. Et depuis l'hiver dernier, on propose aussi des jeux à partir de 2 ans. Donc la mécanique est évidemment plus adaptée.
Oui.
Tout ça pour te dire que tous ces jeux, une fois qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose à faire et qu'ils sont intéressants pour nous, on va les tester en école ou en centre de loisirs ou en crèche, du coup, puisqu'on a maintenant pour les plus petits. On a des écoles partenaires autour des bureaux, donc à Ludre et à Elcourt. Et du coup, ça, c'est depuis la création où, en fait, tous les jeux sont testés déjà une première fois pour confirmer que c'est pas uniquement une vue de notre esprit d'adulte et qu'on trouve ça chouette qu'on s'amuse autour de la table, mais que les enfants aussi prennent du plaisir, comprennent, que ça soit accessible, qu'ils se projettent dans l'univers qu'on a envie de créer, etc. Et puis, on revient après régulièrement, une fois que le jeu est signé avec les auteurs, sur les différentes étapes de développement du jeu pour... dans une itération continuelle jusqu'à ce que le jeu soit parfaitement peaufiné et prêt à partir en fabrication.
Ils ont de la chance, les enfants des écoles autour de chez vous.
Oui, on a de la chance aussi, parce que du coup, c'est un partenariat qui est assez rare aussi d'avoir la direction de l'école et les enseignants qui ont une appétence pour le jeu de société.
Alors, Loki, c'est avant tout de l'édition ou il y a aussi de la localisation?
Alors, c'est avant tout de l'édition. Et il y a de la localisation. Du coup, depuis 2018, il y avait en moyenne 3 jeux qui sortaient par an, qui étaient donc complètement édités. Et ce, donc 2018, 2019, 2020. Et en 2021, on a proposé en France les premières localisations, donc des jeux qui existent déjà sur d'autres marchés que le marché français et qu'on a adaptés et mis aux couleurs de Loki pour les proposer en France. Donc depuis 2021, on a quelques localisations. Ça reste très minoritaire, mais on en commence à en avoir.
Du coup, vous retravaillez tout au niveau de la thématique, des couleurs, ou vous mettez juste votre charte graphique?
Pour les localisations?
Oui.
Alors je suis désolée, il pleut derrière moi, donc je sais pas si c'est audible.
Ah, oui, on entend très bien.
Ok, je vais m'éloigner un petit peu.
Il pleut, c'est la seule région où il pleut aujourd'hui, non?
Voilà, il fait un temps incroyable. Du coup, on retravaille pas mal la charte graphique pour que ça rentre sous l'identité qu'on a créée autour de Loki. C'est essentiellement ce qu'on fait jusqu'à présent sur les localisations, puisque pour une cible de 2 ans, on n'a pas besoin de retravailler tous les éléments de langage, etc. Donc et on a choisi en tout cas jusqu'à présent des jeux qui sont des beaux jeux en termes de matériel, donc des jeux qu'on peut vraiment utiliser pour les plus jeunes, et du coup là-dessus en fait on n'a aucun besoin de faire des changements.
Ouais. Alors, on parle souvent de ligne éditoriale dans les maisons d'édition ou d'ADN. Est-ce que vous en avez une chez Loki? Je crois déjà qu'il y a différentes gammes. Hein.
Oui, il y a différentes gammes en termes de format déjà. Ensuite, les localisations chez nous, ça s'appelle Explore le Monde. Donc c'est une gamme à part entière. Et au-delà des jeux édités et des jeux localisés, on est en train de travailler sur différentes gammes de produits. Ensuite, c'est des formats. Après, c'est pas spécialement des gammes. Pour répondre à ta question sur l'ADN en particulier, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on se veut toujours différent, mais au final, c'est beaucoup des coups de cœur qu'on va réceptionner, choisir, et puis du coup, on va se dire on peut pas passer à côté, il faut absolument qu'on le fasse. Et après, ce qui émerge vraiment sur les jeux Loki, même quand on demande autour de nous, c'est d'une part le niveau d'exigence qu'on a, le souci du détail, tant sur la mécanique de jeu que les illustrations ou le matériel. Ouais. C'est des beaux jeux sur la forme et sur le fond. Et on essaye autant que possible aussi de proposer une certaine immersivité pour rentrer dans un monde et un univers qui est à chaque fois différent pour chacun des jeux qu'on propose.
D'accord.
Donc on travaille avec beaucoup d'illustrateurs et d'auteurs, mais à chaque fois c'est des auteurs-illustrateurs, donc une combinaison d'auteurs-illustrateurs différentes pour chaque jeu. Donc c'est à la fois très chouette parce que c'est une nouvelle aventure pour nous à l'édition et aussi pour le public qui va jouer au jeu, et à la fois ça nécessite de renouveler à chaque fois je trouve pas du tout le mot. En tout cas, ces propositions d'auteurs et d'illustrateurs, de se renouveler continuellement.
Alors à Cannes, on a aperçu de belles nouveautés à venir, notamment le jeu Dodo et son design magnifique. Est-ce que tu peux nous parler des prochaines sorties et des jeux là qui viennent de sortir, hormis les trois minigames, puisque Anne-Gaëlle les a présentés juste avant?
Oui, ce sont les derniers qui viennent de sortir, effectivement. On attend un jeu qui s'appelle je vais te parler d'Odo, mais je te parle de ceux qui vont arriver juste avant.
Ouais.
On attend un jeu qui s'appelle Carla Caramel pour le mois de juin.
Un jeu autour de la cuisine?
Comment?
Un jeu autour de la cuisine?
Alors pas exactement, mais pas loin. Le mot caramel t'a mis l'eau à la bouche.
Ouais.
Non, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de la fête foraine.
D'accord.
Donc dans le même univers que Monsieur Carousel, qui était un de nos premiers jeux chez Loki. Et exceptionnellement, c'est le même duo d'auteurs et illustrateurs, puisqu'en fait c'est dans la même lignée. Et quand tu viens à coller les deux boîtes, bah du coup t'as la fête foraine qui se dessine petit à petit.
Ouais.
Et donc là, c'est Carla qui vient vous proposer des glaces, et c'est aussi un jeu coopératif à partir de 4 ans. Donc vraiment dans la même lignée que Monsieur Carousel, et il va falloir proposer des glaces à tous les enfants avant que le soleil ne fasse fondre les cornets de glace.
D'accord. Ah oui, donc on a un petit esprit Monsieur Carousel, effectivement.
Oui. Donc ça, on l'espère pour le mois de juin. À partir de cet été, on attend une nouvelle gamme de jeux, qui est la gamme des puzzles plus Loki.
D'accord.
Donc on parlait de gamme tout à l'heure, en voilà une nouvelle qui arrive. L'idée était de proposer des puzzles à notre sauce, si je puis dire. Et du coup, on a travaillé sur trois puzzles différents, pour trois âges différents, donc avec un nombre de pièces différents aussi. Et du coup, on a fait appel à différentes illustratrices, en l'occurrence ces trois femmes, pour l'instant.
D'accord.
Qui ont illustré Loki dans différents contextes. Et du coup, vous retrouvez à chaque fois le puzzle avec un poster une figurine de Loki dans la situation.
Donc, d'accord,
par exemple,
ah oui.
Loki fait de la plongée, vous avez une petite figurine de Loki avec laquelle vous pourrez jouer et étendre toute la notion d'imaginaire autour d'un univers qu'on aura créé. Voilà, donc il y a trois puzzles qui sortent cet été.
D'accord.
Puzzle Plus, et nous arrivons ensuite normalement, si tout va bien, parce que là tout ça dépend aussi évidemment des arrivées des transports qui sont un petit peu chaotiques, au jeu Dodo, qui est un jeu effectivement sur lequel on a eu un énorme engouement sur le Festival de Cannes, qui est une localisation d'ailleurs de notre partenaire Cosmos, et qui est un jeu qu'on attendait depuis longtemps parce qu'il existe déjà sur le marché allemand, et on attendait de pouvoir le présenter en France, et c'est un jeu où en fait vous allez devoir sauver tous ensemble, c'est un coopératif, le dernier œuf de Dodo, qui est en train de dévaler la montagne. Donc vite, vite, il va falloir construire des barricades tout autour de la montagne. Donc c'est un jeu en volume, hein. C'est, oui, vous avez une vraie montagne. Et du coup, l'œuf descend inexorablement et il va falloir se dépêcher sous une forme de memory sur laquelle, en fonction des tuiles que vous avez retournées, vous allez pouvoir ajouter des barricades tout au long de la montagne et permettre à l'œuf de descendre de 100 heures jusqu'à le faire arriver dans une barque pour sauver le dernier œuf de Dodo.
Mm-hmm. Donc ça, c'est pour la fin de l'année, on peut dire.
Oui, on espère la rentrée scolaire.
Ah oui, donc à la rentrée, pour le mois de septembre. Ouais. J'ai quelques questions, Marion, à te faire écouter. Des questions de Luna, la fille de Anne-Gaëlle. Donc, je te laisse écouter ça.
Bonjour, je m'appelle Luna. Ma première question, est-ce que Loki existe en vrai? Loki, est-ce que t'aimes bien les gros canards? Parce que moi, je t'aime.
Alors, est-ce que tu peux me répondre à ces deux questions?
Alors, il y a bien un Loki qui existe en vrai, mais il n'est pas aussi aventurier que notre mascotte.
Ah oui.
Nous, il voyage beaucoup plus loin et il fait des choses de ouf, puisque c'est notre baseline. Et du coup, c'est un Loki imaginaire qui est encore plus exceptionnel. Mais il y a bien un Loki qui existe.
Et est-ce qu'il aime les gros câlins?
Il aime les gros câlins et il est surtout très gourmand.
D'autres voilà. Questions de Luna, parce qu'elle avait beaucoup hein, de questions. Moi, il a fallu faire un choix.
Est-ce que Loki joue tout le temps aux jeux de société? Parce que moi, j'adore. Est-ce que c'est bien de faire des jeux de société?
Alors, est-ce que Loki joue tout le temps au jeu?
Loki joue tout le temps au jeu. D'ailleurs, nous tous, nous travaillons chez Loki, nous jouons aussi beaucoup. Jamais autant qu'on voudrait, mais Loki joue beaucoup, beaucoup, beaucoup au jeu. Et c'est aussi un explorateur, puisqu'il ne suffit pas de jouer, il faut aussi les trouver, les jeux. Donc c'est aussi une grosse partie de son temps.
Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éditeurs hein, qui font des gammes enfants. Le jeu enfant est devenu primordial pour un éditeur?
Alors, j'ai tendance à dire que j'espère, parce que ça montrera qu'effectivement, il y a un marché derrière et une demande qui correspond à cette envie d'avoir des jeux enfants de qualité. Mais je pense que c'est effectivement une réalité et que ça va aller en s'accentuant, tout simplement parce que le marché enfant... Le marché adulte, dans un premier temps, a beaucoup grossi ces dernières années. Ouais. Il s'est structuré et en fait, des néophytes du jeu, ils sont venus pour différentes raisons. Pas que la pandémie, hein, c'était déjà le cas avant. Ça s'est accentué ces dernières années. Et du coup, toutes ces personnes qui se sont confirmées comme joueurs, même joueurs novices, bah, potentiellement, ils ont des enfants ou ils vont en avoir ou ils en ont déjà. Et du coup, petit à petit, bah, ils disent, bah, tiens, en fait, c'est pas que pour nos soirées entre amis.
Ouais.
Moi aussi, j'ai envie de passer un bon moment avec mes enfants et pas qu'un jeu où je fais semblant de jouer pour amener certaines compétences à mon enfant. Mais j'ai aussi envie de m'éclater autour de la table. Et donc, c'est en ça où je pense que tout le public de joueurs avertis arrive petit à petit, ou l'est déjà, hein, mais sur du jeu enfant moderne.
Dernière question, Marion, c'est quoi ton jeu préféré chez Loki?
Il y en a pas mal, mais mon jeu préféré, c'est Kraken Attack.
Kraken Attack, très bien.
C'est un jeu coopératif et il règne une certaine tension parce que les tentacules essayent d'attaquer notre bateau de petits pirates, ouais. Et on joue tous ensemble et même quand on perd, on s'amuse bien.
Moi, c'est SOS Dino, c'est un des premiers que j'ai fait aussi avec mes enfants.
Premier.
Merci beaucoup, Marion. À bientôt.
Merci beaucoup.
Salut.
Salut.